Studio Tamani, voici les informations en français.
Merci de choisir Studio Tamani pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal présenté par Juliette Koulibaly. Mamadou Ouattara est à la technique. Voici donc les grandes lignes de ce journal. Le programme alimentaire mondial PAM a arrêté le financement de 400 cantines scolaires dans le centre et le nord du pays en 2024. Une situation qui n'est sans conséquence sur les élèves bénéficiaires. Vers une suspension des services de l'assurance maladie obligatoire à Meaux le 20 mars prochain. L'annonce a été faite ce jeudi par le syndicat national des pharmaciens du Mali et le syndicat autonome des pharmacies et officines privées. Les nouvelles mesures gouvernementales sur la gestion des sites d'orpaillage ont été saluées par les populations. Cependant, elles demandent aux autorités d'assister les victimes. Les détails, c'est dans une poignée de secondes. En 2024, le programme alimentaire mondial a suspendu ses activités dans près de 400 écoles au centre et au nord du pays, faute de ressources financières. Au même moment, le PAM a assisté le Centre national des cantines scolaires à offrir des repas scolaires nutritifs à 200 000 élèves. Ces données ont été annoncées le lundi lors de la célébration de la Journée africaine de l'alimentation scolaire. Des responsables scolaires affirment que ces cantines scolaires permettent de fidéliser les élèves à l'école. Lala Diarra Touré pour plus de détails.
On nous donne des repas à l'école, cela nous évite d'aller à la maison à midi pour ensuite revenir le soir. La nourriture est vraiment bonne.
Tout comme cet élève en 5e année fondamentale au groupe scolaire Komogel 2 de Mopti, les repas scolaires représentent pour des milliers d'écoliers dans les zones d'insécurité le seul plat équilibré de la journée. Un appui qui contribue fortement à la rétention des élèves à l'école, surtout les filles. Ces propos sont corroborés par Youssouf Tapo, point focal des cantines scolaires à l'Académie d'enseignement de Mopti.
Durant l'année scolaire, même le travail en ce qui concerne même les rendements scolaires, la cantine joue beaucoup. Et ça permet vraiment de rehausser le niveau des élèves, ça permet aux élèves d'être stables. Il est très, très, très important.
Le bureau du PAM au Mali, partenaire stratégique du Centre national des cantines scolaires dans la mise en œuvre de ce programme, indique qu'en raison de difficultés financières et opérationnelles, environ 60% des écoles bénéficiaires se retrouvent privées de cette aide. Nadège Ouattou, chargée du programme cantine scolaire pour le bureau du PAM au Mali.
Plus de 50% des écoles n'ont pas pu avoir l'assistance depuis le début de l'année scolaire, ce qui constitue quand même une situation inquiétante, une situation de manque de ressources qui font à ce que nous ne pouvons pas assister à l'heure actuelle avec le CNCS, environ 400 écoles.
Au-delà de l'assistance humanitaire, les cantines scolaires contribuent également au développement de l'économie locale en s'approvisionnant principalement auprès des producteurs locaux.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. Au Mali, bien que des lois accordent les mêmes droits aux hommes et aux femmes concernant l'accès à la terre, leur application reste difficile selon la Fédération nationale des femmes rurales. La coordination des associations et ONG féminines du Mali partage ce constat et appelle à intensifier les campagnes de sensibilisation pour obtenir des résultats concrets sur le terrain. Ali Sissé.
Madame Nyakate Gundo Kamisoko est la présidente de la Fédération nationale des femmes rurales. Elle affirme que la loi réservant 15% des terres aménagées aux femmes n'est pas respectée. Elle soutient également que les femmes continuent d'être spoliées de leurs terres cultivables.
La loi a été votée il y a fort longtemps, mais elle n'est pas appliquée. Donc nous, les femmes cultivatrices, souffrons beaucoup. On nous prête des terres qu'on aménage pour nos cultures. Mais dès que ces terres s'avèrent productives, leurs propriétaires nous les retirent. On ne nous octroie que des terres aménagées. Et là où il n'y a pas de terres aménagées, cela représente un problème. Si la loi n'est pas respectée, alors il doit y avoir un suivi.
Madame Sanogo Fatoumata Djamoutene est une femme cultivatrice de la région de Sikasso. Elle témoigne avoir été dépossédée d'une parcelle qu'elle a reçue et aménagée.
Les autres frères qui sont au village ont critiqué les grands frères qui ne se sont pas compris. Ils ont fait une réunion de famille au niveau du vestibule jusqu'à pour dire qu'on ne peut pas te laisser cette terre-là.
Ces problèmes sont connus de la coordination coordination des associations et ONG féminines du Mali. Sa secrétaire générale, Mme Kouyaté Gundo Sissoko, mise sur la sensibilisation pour inverser cette tendance.
Malgré ces efforts, l'impact direct de ces rencontres sur la réduction de la spoliation foncière des femmes n'est pas encore clairement établi. Il est essentiel de renforcer la sensibilisation aux droits fonciers des femmes pour parler de changements tangibles.
Nos interlocutrices sont unanimes. Le respect du quota des femmes et des jeunes dans l'accès aux terres aménagées est un gage d'autonomisation économique.
Sur un tout autre sujet, l'assurance maladie obligatoire AMO sera suspendue à compter du 20 mars 2025. Cette décision a été annoncée ce jeudi par les syndicats nationaux des pharmaciens du Mali et des pharmacies privées. Ces syndicats réclament le paiement d'aéré de plusieurs mois pour leurs prestations. Selon le secrétaire général du Sinapharm, le non-paiement de ces aéré estimé à plusieurs milliards de francs CFA paralyse leurs activités. Annoncé au sommaire, la population salue les mesures gouvernementales visant à prévenir les drames humains et environnementaux sur les sites d'orpaillage. Néanmoins, le chef de village de Talato, dans le cercle de Kinyebare, commande une application plus rigoureuse de ces mesures. Il demande au gouvernement d'aider les victimes des récents incidents. Écoutons Kankou Madi Kanouté, il est joint par Ziadata Maïga.
Si le gouvernement parvient à appliquer cette mesure qu'il a prise, ce serait une bonne chose pour nous parce que nous n'avons plus de terres arables ici. Le sol est infecté. Je dois reconnaître que l'application de la mesure sera très difficile. Puisque les décideurs ne sont pas là, c'est un vrai problème. Ce que nous souhaitons maintenant, c'est de venir en aide à toutes ces femmes affectées par l'accident. Celles qui sont mortes ont laissé leurs enfants sans soutien. Et parmi ces enfants, il y a des nourrissons. Une fois qu'on arrive à appliquer la mesure, les autorités doivent aider les femmes à exercer des activités générales. Je pense au maraîchage, à la fabrication du savon. En réalité, il nous faut de l'argent pour soigner tous ces gens blessés dans cet accident.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
L'excision est une tradition qui viole les droits humains, causant souvent des séquelles physiques ou psychologiques chez de nombreuses victimes. Malgré de fréquentes campagnes de sensibilisation, cette pratique reste très répandue au Mali, avec un taux de prévalence de 89% chez les femmes de 15 à 49 ans, en prélude à la journée internationale des droits des femmes. Notre dossier de la semaine évalue cette pratique au Mali, une réalisation de Adama Amadou Aïdara avec le concours de nos correspondants.
Selon Mme Kouyaté Gundo Sissoko, secrétaire générale de la coordination des associations et ONG féminines du Mali, CAFO, cette recherche se fonde sur les chiffres de 2018. Elle précise que ce taux de prévalence est attribuable à plusieurs éléments.
Je note tout d'abord les facteurs socio-culturels. L'excision, souvent, elle est associée à la pureté, la dignité et le respect des traditions. La forte pression sociale qui empêche la famille de s'en détourner et la méconnaissance des dangers liés à la pratique de l'excision.
Dans le cercle de Diré, au nord du pays, précisément à Tombouctou, l'excision est largement pratiquée. Mariam Touré, ex-employée du service local de promotion de la femme, de l'enfant et de la famille à Diré, nous apporte plus d'informations.
L'excision, c'est vraiment un problème social. C'est un défi à relever vraiment dans le cercle de Diré. Et ça continue de faire des victimes. La population étant à moitié analphabète ne mesure pas encore les conséquences de ces pratiques.
Cependant, à Kolokani, en région de Koulikoro, la pratique de l'excision a connu une diminution au fil des années. Cela grâce au soutien des ONG qui travaillent en faveur de cette cause. C'est ce que soutient Mme Diara Fatoumata Traoré, responsable du service de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille à Kolokani.
Nous avons mené des campagnes de sensibilisation de grande masse dans tous les villages de Kolokani pour éduquer et sensibiliser la communauté de Bélédougou. Nous avons mis en place le financement de Spotline Initiative, 145 comités d'éveil et d'alerte précoce qui vont lutter contre l'excision et toutes les formes de BVG qui nuit à la santé de la fille et de la mère. Jusqu'à présent, ça persiste, mais ça se fait de façon timide.
Un programme national de lutte contre l'excision a été mis en place au Mali avec le soutien du gouvernement et de plusieurs partenaires. Néanmoins, certains intervenants du domaine critiquent l'absence de mesures durables mises en œuvre pour combattre de manière efficace cette pratique. Rose Dolo, personne et ressources et facilitatrice des cercles de paix à Wildaf Mali.
À cause de ce programme, ce n'est plus un sujet tabou. Il y a eu l'accompagnement des leaders religieux, il y a eu des leaders religieux qui n'étaient pas favorables, mais il n'y a pas eu des efforts pérennes. Il y a eu un manque d'accompagnement qui fait que les acteurs n'ont pas eu d'efforts conjugués pour combattre ce fléau.
Nos interlocutrices regrettent également l'absence d'une loi spécifique qui condamne l'excision au Mali.
Et c'est ce qui met fin à cette édition présentée par Juliette Koulibaly. Mamadou Ouattara était à la technique. Tout juste après le magazine, vous aurez la rediffusion du Grand Dialogue du 20 février dernier sur le thème Ramadan 2025, plusieurs plans d'action pour stabiliser les prix des denrées. Une émission animée par Mariam Koulibaly en Bambara. Auditeurs et auditrices, faites-nous parvenir vos plaintes, commentaires ou recommandations en nous appelant au 76 98 56 56 à Studio Tamani. Nous attachons une grande importance à vos messages et nous nous engageons à les traiter avec diligence. De plus en plus, les élèves des écoles primaires, secondaires et même universitaires font des cadeaux aux enseignants et professeurs. Une reconnaissance souvent faite lors des grands événements tels que la fête et les anniversaires. Certains du corps enseignant voient dans le geste une récompense du travail de qualité abattu en classe, mais la démarche est perçue autrement pour d'autres acteurs de l'école. Qu'en est-il? La réponse dans ce magazine réalisé par Oumar Waïgalo.
Les cadeaux sont généralement composés de boissons, des îles, des habits et même de l'argent en liquide. Ce nouveau challenge devient de plus en plus récurrent en milieu scolaire. Les élèves qui offrent ces cadeaux avancent des raisons diverses.
Nous comprenons les cours qu'ils dispensent. Il est différent des autres profs. C'est pour cela qu'on a choisi.
On nous a offert tous ces cadeaux car on aime très bien ce monsieur.
Il est gentil, tolérant. Il fait très bien ses leçons.
Il nous encourage. Il nous donne suffisamment d'idées pour réussir notre examen.
L'association des parents d'élèves se fistise contre cette nouvelle pratique dans les établissements publics et privés. Selon Abel Touré, membre de la Fédération des associations des parents d'élèves, ces cadeaux constituent l'assaut de conscience et les enseignants doivent impérativement résister.
De nos jours, de la part des élèves du fondamental, du secondaire ou du supérieur, cela n'a d'autre sens qu'une corruption qui ne dit pas son nom. Lorsque vous habituez les enfants à vous offrir des cadeaux et vous savez bien qu'en retour de ces cadeaux, ils s'attendent à quelque chose, eh bien vous êtes obligé d'en tenir compte. À prendre plusieurs fois des cadeaux, vous devenez petit à petit esclave de vos élèves.
Pourtant, certains enseignants bénéficiaires rejettent toute l'idée de l'assaut de conscience. C'est le cas de Issiaka Sangaré, professeur français dans un établissement privé. Il estime que ces gestes des élèves ne changent pas sa façon d'enseigner.
Certains pourraient même attribuer la réception de ces cadeaux à l'obtention ou à l'attribution des notes de complaisance. Mais personnellement, je ne les reçois pas dans ces sens. Je les reçois concrètement dans le sens de la relation élève-enseignant et inversement.
Les cadeaux sont offerts aux enseignants les plus méritants, indique Moussa Bagayogo, chef d'administration d'une école privée en commune 4. Ces cadeaux n'impactent pas l'évaluation des élèves et n'excluent pas le sentiment corporel.
Les anciens qui ont reçu les cadeaux au sein de l'établissement, en réalité, ce sont les anciens qui le méritent. Et même après la composition, les notes que j'ai vues, ces cadeaux-là n'impactent pas en réalité les notes. Parce que les anciens, en réalité, ils n'ont pas changé de comportement. Parce que même ici, nous avons souvent avec des fouets.
Pour les pédagogues Morike Dambélé, l'acceptation de ces gestes générés des enfants s'explique par la précarité des enseignants. Il ajoute que beaucoup d'enseignants ignorent l'éthique et la déontologie du métier.
Le premier grand facteur, c'est que beaucoup d'enseignants n'ont pas reçu une formation pédagogique, civique et morale. Le deuxième grand facteur, c'est les conditions de travail de beaucoup d'enseignants. Ces conditions de travail se sont dégradées au fil du temps. Les élèves ont pitié des enseignants, ils les voient travailler. Finalement, les relations pédagogiques se transforment en relations marchandes.
Les pédagogues préviennent que ces bienfaits des élèves pourraient engendrer de nombreuses conséquences, notamment la concurrence entre les élèves des familles nanties et l'abandon des enfants dont la famille ne dispose pas assez de moyens financiers.
Ces cadeaux aussi créent une compétition entre les élèves qui apporte le plus de cadeaux à l'enseignant ou à l'enseignante et pénalise par là même les élèves de parents pauvres. Ceux-ci sont frustrés et peuvent même abandonner l'école.
La Fédération des associations des parents d'élèves demande aux autorités scolaires de mettre fin à cette pratique en sanctionnant les élèves qui offrent les cadeaux et les enseignants qui les prennent.